Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30 avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Pour aller danser, il va encore falloir être patient. 3 semaines supplémentaires de fermeture pour les discothèques. En revanche, les universités, elles, accueilleront bien les étudiants pour les partiels en janvier. Un nombre de contaminations qui ne cesse de battre des records, près de 180 000 hier, des taux d'incidence qui s'envolent dans certains départements. Nous allons regarder calmement, de façon reposée, les chiffres de l'épidémie avec notre spécialiste Sophie Jousselin. Et puis nous parlerons également dans ce journal de la situation ubuesque de certaines petites entreprises. Leur comptabilité plombée par le prix de l'électricité, eh bien, elles sont obligées de se tourner vers le diesel. La question du jour sur RTL.fr, faites-vous confiance aux autotests? Vous dites oui à 28% et non à 57%. On attend évidemment vos avis au 3210 sur cette actualité. Vous aurez également la parole sur nos 2 débats du jour. Est-il risqué de maintenir les partiels à l'université au mois de janvier? Certains syndicats tirent la sonnette d'alarme. Et puis un sujet plus doux, du moins en apparence. Les températures sont très hautes pour un mois de décembre. Est-ce que cela a des conséquences sur la faune et la flore? Et si oui, lesquelles? Alain Baraton, le jardinier en chef de Versailles, sera notre invité. Et puisque l'on parle météo, évidemment, je me tourne vers vous, Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour Agnès.
Encore une extrême douceur, Peggy.
Et oui, jusqu'à 22 degrés attendus cet après-midi à Biarritz, 19 à Nîmes et Toulouse, 18 à Bordeaux, 16 à Paris et Caen, 14 à Lille, 13 à Nancy. Côté ciel, c'est bien gris sur les 3/4 nord du pays avec encore beaucoup de précipitations sur le flanc est. D'ailleurs, 4 départements sont en vigilance orange, pluie, inondation et avalanche. Les Savoies, l'Ain et l'Isère. Et les pluies sont beaucoup plus faibles et plus rares sur l'ouest du pays. C'est le retour d'éclaircies dans le sud-ouest et il fait beau également près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Peggy. À tout à l'heure, 13h pour une météo complète.
RTL Midi.
Encore un coup dur porté aux services de proximité. La désertification médicale avance encore et c'est très concret. En 2022, SOS Médecins envisage de ne plus intervenir dans 9 communes des Bouches-du-Rhône. En cause, le manque de personnel, Hugo Hamelin.
Absolument, en 3 mois, SOS Médecins a perdu tous ses praticiens remplaçants et plusieurs titulaires. C'est la raison avancée par l'association dans un courrier envoyé aux maires des 9 communes concernées par la disparition de ce service. Elles sont toutes situées au sud d'Aix-en-Provence et c'est forcément une mauvaise nouvelle pour les administrés de Georges Christiani, le maire de Mimay.
Donc on est vraiment dans un problème de déserts médicaux et quand on a 2 millions d'habitants comme dans les Bouches-du-Rhône, il est assez incroyable d'arrêter des services d'urgence d'SOS Médecins. Donc on va se retourner vers le public, c'est-à-dire vers les pompiers, vers le SAMU. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la faiblesse de notre système de santé, malgré les grandes déclarations politiciennes que l'on entend tous les jours à la télévision.
À partir du mois de mars, il n'y aura donc plus de médecins le soir et les week-ends dans ces communes. Les maires des villages concernés planchent sur une solution pour tenter de remplacer ce service de santé de proximité.
Hugo Hamelin dans les Bouches-du-Rhône pour RTL. Il va peut-être falloir s'habituer aux records liés à l'épidémie de Covid. Hier, jamais autant de cas positifs n'avaient été enregistrés en 24 heures, près de 180 000. Non seulement ça risque de se reproduire, Sophie Jousselin, bonjour à vous.
Bonjour.
Mais en plus, il faut replacer les chiffres, en tout cas tenter de le faire dans leur contexte.
Oui, hein, près de 180 000 nouveaux cas en 24 heures, vous l'avez dit, 250 000 courant janvier, selon les prévisions. On n'a jamais vu ça depuis le début de l'épidémie. Au maximum, on avait atteint 70 000 nouveaux cas quotidiens. Le taux d'incidence bat aussi tous les records. Au plan national, il est à plus de 700. Certes, on teste beaucoup plus, 1,5 million de prélèvements réalisés le 23 décembre, du jamais vu là aussi, donc c'est normal qu'on trouve plus de cas, mais le taux de positivité ne cesse lui aussi de grimper, il vient de dépasser 10%, là ce n'est pas un record, il était monté jusqu'à 16% lors de la deuxième vague.
Alors cela dit, on est d'accord Sophie, certains chiffres interpellent vraiment.
Oui, localement, on a des taux d'incidence extrêmement élevés. Près de 2000 à Paris, chiffre jamais atteint depuis le début de l'épidémie. En dehors de la région parisienne, ce sont la Savoie et la Haute-Savoie qui sont les départements les plus touchés, avec des taux d'incidence autour de 1200 cas pour 100 000 habitants. Alors, des niveaux qui avaient déjà été atteints en novembre 2020, mais on était alors au pic épidémique, alors qu'aujourd'hui, on est en pleine phase ascendante, d'où une certaine inquiétude concernant les services de santé qui vont devoir accueillir à la fois les malades du Covid, mais aussi les blessés des sports d'hiver.
Merci beaucoup pour ces précisions, Sophie Jousselin. Fermeture des pistes pour encore 3 semaines. Là, on ne parle pas de ski, mais des discothèques qui, une nouvelle fois, doivent prendre leur mal en patience. Après un mois de décembre déjà sur pause, le moral est au plus bas dans le secteur. Écoutez, Christian Jouny, délégué général du Syndicat national des discothèques.
Malheureusement, ça n'est pas une grande surprise pour nous. Vous savez, lorsque le Premier ministre avait annoncé cette fermeture, on s'imaginait bien qu'elle ne se limiterait pas à la période de décembre. La seule chose que je déplore, c'est la méthode, encore une fois. Quand vous entendez au détour d'un communiqué de presse du Premier ministre que la fermeture dans laquelle vous vous êtes déjà depuis quelques semaines est prolongée 3 semaines supplémentaires, je pense qu'il aurait été préférable qu'on puisse au moins en discuter ensemble et avoir une relation plus constructive. Vous comprenez? Et donc, ce que je crains pour l'avenir, c'est qu'en janvier, on vienne nous dire, bah, écoutez, monsieur, de nouveau, vous avez vu, hein, les jeunes ne se sont pas très bien comportés, la population n'a pas respecté les gestes barrières, donc nous allons poursuivre malheureusement la fermeture des discothèques au cours du mois de février. C'est ça la crainte des exploitants aujourd'hui.
Des propos recueillis par Arnaud Touche pour RTL. Le monde de la nuit et plus généralement le monde de l'événementiel est concerné par les restrictions, avec une jauge limitée, par exemple, à 2000 personnes en intérieur. Plusieurs concerts et festivals, on le voit, sont annulés. Cela ne veut pas dire que le monde de la culture est sacrifié, selon la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Elle était l'invitée de RTL ce matin.
La culture n'est pas sacrifiée. Je rappelle que c'est une mesure temporaire, une mesure de 3 semaines qui est destinée à taper la pandémie et à protéger le secteur culturel. Donc, oui, c'est injuste cette pandémie. C'est quelque chose. Là, nous vivons une tragédie, bien sûr. Et on essaie de la combattre de la meilleure façon. Là, il va falloir faire du cousu humain. Ouais. Bien sûr, il va y avoir de l'aide, on va les accompagner. On n'a jamais laissé tomber le monde de la culture depuis 2 ans. Pourquoi voulez-vous qu'on arrête ?
Roselyne Bachelot était au micro de Stéphane Carpentier dans la matinale ce matin sur notre antenne.
RTL Midi.
RTL Midi 37. Ne venez surtout pas leur parler d'écologie. Ils font au mieux pour survivre face à la flambée des prix de l'électricité et du gaz. Certaines PME optent pour des solutions moins chères, comme le diesel. Un exemple très concret avec vous, Gauthier Delon-Bugard, dans cette société de Mayenne.
Oui, dans cet entrepôt, les machines tournent en permanence pour découper le bois et produire plus de 400 000 palettes par an. Les factures d'électricité sont assez élevées en temps normal, mais avec la flambée des prix, les chiffres sont affolants. Yannick Chopin, le gérant de Palette 53.
À partir du 1er janvier, on me proposait un contrat multiplié par 6. Je passais de 90 000 à 600 000 euros. C'est des prix stratosphériques. Je suis resté assis. Hein. Il y a une erreur dans les chiffres. J'ai pris ma calculette. J'ai dit, ben non, si je signe, c'est l'arrêt de mort pour Palette 53.
Les tarifs sont encadrés pour les particuliers, mais pas pour les professionnels. Voilà pourquoi on attend des sommes folles. Le patron a donc sondé ses équipes pour trouver une solution.
Ils m'ont parlé de photovoltaïque, d'éoliennes. Et je leur ai dit, le volume est tellement important pour une entreprise, on ne pourra jamais trouver 2 hectares d'éoliennes. Quoi. On s'est orienté vers le groupe électrogène, réellement. Gasoil plus location, je me retrouve avec un tarif de 2,5 fois par rapport à aujourd'hui. Et non les 6 à 10 fois qu'on pourrait me proposer les prochains mois. Quoi.
Une solution beaucoup moins chère et surtout beaucoup moins écolo.
On marche sur la tête, hein. C'est pas possible de continuer comme ça. Hein. Mais il n'y a pas le choix.
Michel Lenoir, le maire de Villeneuve-la-Juhelle.
Ça me désole qu'ils soient contraints à cela. Il y a une augmentation de l'électricité, c'est indiscutable. Il faut qu'il y ait effectivement une intervention publique pour qu'une régulation puisse être mise en place.
La société avait prévu d'acheter du matériel neuf. Avec ces hausses de charges inattendues, il va falloir repousser les investissements.
Gauthier Delon-Bugard pour RTL. Et si vous aussi, vous avez l'impression que vous marchez sur la tête en tant que patron d'entreprise, n'hésitez pas. Téléphonez-nous au 3210, on attend votre avis là-dessus. Un nouveau petit pas pour Christiane Taubira. Il y a 2 semaines, l'ancienne garde des Sceaux disait envisager une candidature à la présidentielle. et ça se précise, même si rien n'est officiel. Aurélie Herbemont, l'ex-député de Guyane, se dévoile un peu plus par le biais d'une tribune dans le journal Le Monde.
Et oui, Christiane Taubira doit dire d'ici mi-janvier si elle fait plus qu'envisager d'être candidate. En attendant, elle sème des petits cailloux pour prendre la tête d'une très très hypothétique union de la gauche. Nos convergences, écrit-elle, sont suffisantes pour nous permettre de gouverner ensemble et de citer le choc climatique affaire de ce siècle pour tenter d'amadouer les écologistes. Christiane Taubira propose des services publics qui maillent tout le territoire, l'augmentation du salaire minimal, un rétablissement de l'impôt sur la fortune, des propositions qui collent avec ce que portent les autres candidats de gauche. Alors l'ancienne ministre reconnaît quand même qu'il y a des divergences sur l'énergie, par exemple, entre les anti-nucléaires, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, et les pros, Fabien Roussel et Arnaud Montebourg. Elle pointe aussi le rapport à l'Union européenne, mais elle écrit de ces désaccords, combien sont insurmontables. Nous n'avons pas le droit de nous complaire dans la torpeur, assène Christiane Taubira. Sinon, la jeunesse nous méprisera, les autres nous tiendront pour insignifiants. Alors Anne Hidalgo a déjà dit qu'il fallait des débats et une primaire pour trancher entre les différents candidats. Mais Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon refusent toujours d'y participer.
Merci Aurélie Herbemont du service politique de RTL. Un homme d'une vingtaine d'années poignardé à mort hier soir dans le 13e arrondissement de Paris. 7 individus au visage dissimulé l'ont agressé avant de prendre la fuite. Ils sont toujours activement recherchés. En Russie, le coup de grâce porté à Mémorial, une ONG qui depuis plus de 30 ans se battait en faveur des droits de l'homme. Après son interdiction hier, un tribunal de Moscou a porté un nouveau coup d'arrêt à l'organisation ce matin, Félix Grasso.
Le centre des droits de l'homme de l'ONG Mémorial a subi le même sort que Mémorial International, sa maison mère. La Cour suprême a décidé ce matin de suivre la requête du procureur et de dissoudre l'organisation de défense des droits Mémorial et toutes les entités qui lui sont rattachées. Cette branche de Mémorial, dédiée à la défense des droits de l'homme, a donc été reconnue coupable d'avoir violé ses obligations liées à son statut d'agent de l'étranger, comme d'avoir fait l'apologie du terrorisme et de l'extrémisme. Le centre des droits de l'homme s'est particulièrement illustré en documentant les exactions des forces russes et de leurs alliés tchétchènes lors des deux guerres de Tchétchénie. Pour son directeur Alexandre Tcherkassov, cette décision est la confirmation que les poursuites à des fins politiques sont devenues une réalité systémique dans la Russie actuelle.
Félix Grasso, le correspondant de RTL à Moscou. Décidément, sale temps pour les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong. Pékin accentue la répression sur la presse locale. 6 personnes ont été arrêtées pour publication séditieuse. Là aussi, cela provoque beaucoup d'émotions et d'inquiétudes au sein de la communauté internationale. La terre a tremblé ce matin en Crète. Un séisme de 5,7 sur l'échelle de Richter a été enregistré au large de l'île grecque. Pour l'heure, aucun dégât n'a été signalé, mais la secousse a été ressentie jusqu'en Égypte. Et puis les places boursières au plus haut, le CAC 40 a atteint un nouveau record à l'ouverture ce matin, plus de 7100 points. C'est assez fréquent au mois de décembre, mais selon les spécialistes, cela démontre une certaine sérénité des marchés face aux variants Omicron. On fait une pause sur RTL et puis ce débat, y a-t-il un risque à maintenir les partiels à l'université malgré la flambée des contaminations? On en parle tout de suite.
RTL Midi
avec Agnès Bonfillon.
Les examens et les partiels sont maintenus en présentiel à l'université en janvier. Confirmation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, ce matin. Ce n'est pas forcément une très bonne idée selon certaines organisations comme l'UNEF. Bonjour Mélanie Luce.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'UNEF, merci d'être avec nous. C'est une annonce qui est loin d'être un soulagement pour vous, c'est même tout le contraire.
En fait, le problème, c'est pas tellement est-ce que les partiels sont maintenus ou pas, c'est comment ils sont maintenus. Et effectivement, la manière dont la ministre s'est exprimée ce matin, c'est loin d'être un soulagement, parce qu'elle a l'air de dire que tout va bien, que tout est organisé et qu'il n'y a aucun problème. Alors nous, le constat qu'on fait, c'est que tout est très loin d'aller bien. On a énormément d'étudiants qui effectivement sont positifs au Covid ou cas contact et qui s'inquiètent sur le déroulé des examens. Donc il y a des solutions. Pour nous, la solution, c'était notamment d'organiser des sessions balais, sessions de substitution, c'est-à-dire la possibilité possibilité de passer ses examens en février et de conserver le droit au rattrapage. Et ça, en fait, ça demande de l'organisation. La ministre a l'air de dire que tout est déjà prêt. Or, c'est pas vrai. Ça veut dire des moyens pour organiser des vraies sessions d'examen, des salles disponibles, etc., etc. Et on voit bien que les universités, elles sont pas du tout, en tout cas, elles ont pas du tout communiqué auprès des étudiants là-dessus. Ça inquiète beaucoup. Concrètement, c'est quoi le résultat? C'est des étudiants positifs qui risquent d'aller en examen, ou des étudiants cas contact qui risquent d'y aller, ou même des étudiants qui ne sont pas positifs mais qui ont peur d'être contaminés et qui ne sont pas rassurés par les mesures de sécurité, donc qui ne veulent pas aller en examen.
J'aimerais vous faire, j'entends votre inquiétude hein, Mélanie Luce, je voudrais vous faire écouter Virginie Dupont, c'est la présidente de l'Université Bretagne Sud à Lorient, vice-présidente de la conférence des présidents d'université, donc elle a une vue vraiment globale. Pour elle, écoutez, aucun souci à se faire.
Il n'y a pas de raison que l'on attrape le Covid en étant en examen dans les établissements. Il y a le port du masque qui est obligatoire, les salles sont désinfectées, nous respecterons les conditions sanitaires qui sont décrites dans les circulaires des examens, qui demandent effectivement, dans la mesure du possible, d'espacer les étudiants et puis d'avoir des procédures de nettoyage entre chaque épreuve. Il faut bien dire à ces étudiants que s'ils sont malades, il y aura une épreuve de substitution qui devra se dérouler soit 15 jours après l'épreuve initiale jusqu'à 2 mois au plus tard, et donc tous les étudiants qui pourront montrer qu'ils ont eu en fait un test positif, cette épreuve de substitution leur sera proposée. Il n'y a pas donc à s'inquiéter pour les épreuves et pour les examens à venir.
Donc c'est assez clair, Mélanie Luce, ce qu'elle dit, Virginie Dupont, c'est si vous avez le Covid, surtout ne venez pas, bien évidemment, soyez raisonnable, sachant que 15 jours après, vous pourrez repasser vos examens.
Oui, le problème, c'est que si c'était aussi clair que ça sur les universités, tout irait effectivement bien. Alors déjà, il faut clarifier une chose. Nous, on n'a pas peur d'attraper le Covid à l'université dans son fonctionnement normal. L'université, elle s'organise et il y a des choses qui sont mises en place. Simplement, là, ce qui nous fait peur, c'est le fait que les mesures prises pour adapter les examens et les cours face à la flambée des cas chez les jeunes nous semblent insuffisantes. C'est ça qui nous fait peur. Et là, notamment, les sessions de substitution dont tu parles, c'est exactement ce que nous, on demande. Malheureusement, pour les organiser, en fait, il faut des moyens et il faut surtout que les étudiants soient au courant parce que les examens commencent le 3 janvier. Pourquoi les étudiants s'inquiètent sur les réseaux sociaux, nous contactent, etc. Parce qu'ils ne sont même pas au courant que s'ils sont malades, des sessions de substitution seront organisées. Et ça, en fait, c'est simple, c'est le moyen de ne pas en organiser. C'est ce qui se passe chaque année. On a des présidences d'université qui nous disent tout va bien, une ministre qui nous dit tout va bien, et en fait, derrière, on se rend compte qu'il y a très très peu d'endroits où des sessions de substitution sont vraiment organisées, tout simplement parce que les étudiants ne sont même pas au courant. Et ça, c'est pour ça que c'est ça qu'on attendait de la ministre, qu'elle donne des consignes claires avant de partir en vacances pour que tous les étudiants reçoivent des consignes qui soient la mise en place de sessions de substitution, mais aussi la mise en place du contrôle continu là où ces sessions ne sont pas possibles, et surtout avec des dates précises sur ces sessions, des modalités d'organisation, c'est-à-dire, enfin, si on rentre dans le concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire des nouveaux sujets d'examen à préparer pour les enseignants. Est-ce que les enseignants, ils sont au courant de ça? Je ne pense pas. Ça veut dire recruter des surveillants qui vont surveiller les salles. Ça veut dire des salles disponibles pendant que certains auront repris les cours. Tout ça, ce n'est pas organisé à l'heure actuelle et c'est ça qui nous inquiète. C'est ça qu'on attend de la ministre, c'est ça qu'on attend de nos présidents d'université.
Ce que vous nous dites, Mélanie Luce, c'est que tout n'est pas aussi bien organisé qu'en Bretagne?
Eh bien, en tout cas, effectivement, nous, on a beaucoup d'étudiants qui n'ont aucune information et qui ne savent pas du tout comment ça va se passer lundi. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très inquiétant. Et là, en fait, le problème, c'est que c'est la ministre qui aurait dû s'assurer que toutes les universités communiquent, expliquent et mettent en place un système alternatif pour les étudiants positifs dès les vacances, enfin avant de partir en vacances. Et par ailleurs, nous, on alerte aussi sur une chose. Il faut pas simplement se contenter des examens. Il faut des mesures pour tous les étudiants positifs, cas contact, etc., pour les cours. Parce que on est aussi noté pendant les cours. Il y a des travaux dirigés, des travaux pratiques qui sont notés.
Mais concrètement, que demandez-vous, Mélanie Luce? Vous demandez le retour en distanciel, comme on dit, ou davantage de dispositifs comme on a pu le connaître durant le premier confinement?
Ben non, justement. En fait, on veut qu'il y ait des mesures qui soient prises maintenant pour ne pas avoir à retourner faire cours devant notre ordinateur chez nous. D'accord. On veut que les universités restent ouvertes, mais pour ça, en fait, il faut s'assurer que dès maintenant, on divise les effectifs, que dès maintenant, on prenne des mesures pour qu'il n'y ait pas un seul étudiant qui se sente obligé de venir à l'université alors qu'il est positif ou qu'à contact. Et ça, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et justement, on veut éviter de se retrouver dans la situation qu'on a vécue pendant un an. On a quand même eu des suicides d'étudiants, des étudiants qui font encore la queue aujourd'hui aux distributions alimentaires. Et on ne veut surtout pas reconnaître ça à nouveau. Mais ça demande de l'anticipation, en fait.
Merci beaucoup, en tout cas, Mélanie Luce, d'avoir été notre invitée dans RTL Midi. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'UNEF. Merci à vous. Dans un instant, nous allons mettre un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Vous allez me dire, c'est facile, hein, vu les températures qu'il fait en ce moment.
RTL Midi.
RTL Midi.
Avec Agnès Bonfillon.
Ça sent l'été en ce moment. Bon, c'est un petit peu facile hein, de vous poser cette question, sachant que les températures sont très douces. Peggy nous l'a dit en début de journal. Il suffit de regarder effectivement ces températures. Une douceur assez inhabituelle pour un mois de décembre. Et forcément, ça se ressent. Ça se voit aussi dans les jardins. Bonjour Alain Baraton.
Bonjour.
Et alors, en tant que jardinier en chef du château de Versailles, vous êtes bien placé pour nous en parler. Concrètement, la douceur actuelle se manifeste de quelle façon quand vous êtes dans les jardins de Versailles ?
Alors c'est à peine visible, mais elle encourage les plantes à se mobiliser pour le printemps qui n'est que dans 3 mois. Les plantes sont en train de lever leur protection hivernale. Juste un exemple concret, les plantes qui gardent leurs feuilles en hiver, eh bien fabriquent comme une sorte de sucre qui épaissit la sève et empêche justement le gel d'agir sur le végétal. La plante là est complètement perturbée, elle ne met pas en place cet anti-gel et risque fort quand le gel va revenir, car il va revenir, eh bien là malheureusement d'en souffrir.
Et est-ce que ce dérèglement doit nous inquiéter et vous inquiète-vous en tant que professionnel ?
Oui, incontestablement. Dans les régions les plus douces de sur la planète, il n'y a pas de changements brutaux de température. Dans les pays les plus chauds, par exemple, on voit qu'il y a une végétation luxuriante. Sous les climats où il y a des hivers qui sont marqués, les plantes ont mis des siècles, des millénaires à s'adapter. Et aujourd'hui, eh bien, ce réchauffement climatique hivernal de courte durée fragilise les végétaux et va malheureusement, eh bien, les rendre sensibles à quantité de problèmes comme les maladies. Regardez autour de vous, les sapins dans les Alpes sont en train de mourir en quantité énorme. Le frêne souffle de la calarose. Les peupliers sont en grande souffrance. Les buis sont infestés par quantité d'insectes. Tout ça pour vous dire que les insectes nuisibles profitent de ce radoucissement et les plantes se fragilise justement de par ce radoucissement qui n'est que provisoire. Le danger, ce n'est pas ce radoucissement actuel, c'est le froid qui va revenir après, car la plante, malheureusement, aura levé toutes ses protections.
Alors justement, c'est la question de la néophyte complète, mais justement, s'il y a un gros coup de froid qui arrive dans quelques jours, est-ce que cela peut remettre les choses dans l'ordre ou pas du tout, c'est trop tard ?
Eh bien, c'est trop tard, malheureusement. Quantité de plantes ont déjà pris, j'allais dire, leur quartier de printemps, modérément, car les plantes sont beaucoup plus sages que nous. Elles prennent le temps avant de réagir. Mais prenez l'exemple de deux plantes que nous connaissons tous, l'amandier ou l'abricotier. Ce sont des plantes, l'arbre résiste grandement au froid, mais la fleur, elle, est très sensible. Or, la floraison de ces deux arbres fruitiers, c'est dans 2 mois à peine. Ce qui veut dire que les arbres sont déjà en train d'amorcer leur fabrication de bourgeons, l'éclosion des bourgeons, et cela risque fort de perturber la floraison à venir, voire même de la tuer. Donc ce qui est très dangereux pour les plantes, ce n'est pas la douceur actuelle, c'est le fait que le froid va revenir, c'est inévitable, il y aura choc thermique, et là, cela risque de fatiguer les plantes, voire d'en tuer beaucoup.
Et comment s'organiser en tant que professionnel, en tant que jardinier, en ce moment ? J'imagine que certaines habitudes sont à revoir, ou en tout cas vous devez revoir certaines choses ?
Les habitudes, non, car les plantes fragiles, en ce moment, dorment dans les orangeries, bien au chaud, il n'y a pas de souci. Non, il faut que l'on repense aujourd'hui les plantes que nous allons installer demain dans le jardin. Mais on va devoir se faire une raison. Quantité de végétaux qui fleurissent d'habitude très tôt au printemps risquent malheureusement de décaler leur date de floraison. Quantité d'insectes qui proliféraient avant ce changement climatique aujourd'hui pullulent de manière inhabituelle et font des dégâts énormes. Non, on ne peut que constater les dégâts, on commence déjà à changer les forêts, enfin les arbres dans les parcs et dans les forêts. Regardez, même les forestiers aujourd'hui sont perplexes sur les chênes. Je parle du bon vieux chêne robur qui a quelques difficultés à s'adapter au changement climatique. Le hêtre est en train de disparaître de nos paysages, etc. La liste est très longue. Donc malheureusement, ces aléas climatiques sont en train de tout dérégler. Il nous faudra du temps, mais beaucoup de temps, pour que les plantes et les jardiniers puissent s'adapter.
Et puis je peux pas ne pas vous demander un petit conseil pour tous les amoureux du jardinage qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a certains petits trucs à mettre en place lorsqu'il fait aussi doux?
Eh bien, de ne pas surtout se laisser piéger par cette douceur qui est inhabituelle et qui est en quelque sorte un petit piège tendu par Dame Nature. Si vous avez mis des protections, des voiles d'hivernage par exemple, profitez-en bien sûr pour les retirer, laissez la plante profiter du soleil, mais ne tardez pas à les remettre, laissez la proximité, car le froid, c'est une évidence, va revenir. Et le danger, comme je vous l'ai dit, de ce printemps qui n'en est pas un, ce n'est pas la douceur actuelle, c'est le froid qui va revenir, c'est une évidence.
Et puis alors, petite question concernant, on a parlé de la flore, on pourrait parler de la faune maintenant. Est-ce que vous constatez aussi des changements à ce niveau-là?
Oui, parce que malheureusement, eh bien, quantité d'insectes, moi je parle surtout des insectes, ouais, sont quelque peu perturbés.
J'aurais préféré que vous nous parliez des petits renards,
les petits renards. Vous savez que tout est lié, plus il y a d'insectes à l'extérieur et les oiseaux sortent également, quantité d'animaux ne restent plus aussi longtemps. Il y a un problème même d'appétit. Il est évident que quand le froid fait régner, le calme dans la campagne, les renards peuvent attraper avec plus de facilité les petits campagnols car ils sont beaucoup plus visibles dans la neige. Absence de gel, absence de neige, difficulté à se nourrir, même le petit renard a du mal à se nourrir, et même le lapin aujourd'hui risque fort d'avoir des soucis à se nourrir, parce que toute la nature est perturbée, que le lapin lui aussi, malheureusement, va l'être.
Merci beaucoup, c'était un bonheur de vous avoir, Alain Baraton.
Merci
dans
beaucoup.
RTL Midi. Je rappelle que vous êtes le jardinier en chef du château de Versailles, pour ceux qui ne le savent pas. Ils sont peu nombreux, merci beaucoup. RTL, il est bientôt 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
Dans un instant, effectivement, vous aurez la parole au 3210. On attend vos appels. Florence attend vos appels.